L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Êtes-vous prêt maintenant à aller dans la parole de Dieu? Amen. Je vais vous inviter à pencher vos têtes et on va prier ensemble. Père éternel, on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour ta présence qui est dans cette place. On veut te remercier pour ta sainte parole qui change des vies aujourd'hui. Merci, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Merci parce qu'on va sortir de cette place encouragé en toi, mais ayant reçu plus de connaissances de ta parole. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 11 et on va aller au premier verset. On est dans une série présentement sur l'apôtre Paul, sur la vie et le ministère miraculeux de l'apôtre Paul. Et si vous étiez en vacances la semaine passée, je veux vraiment vous inviter à aller écouter l'audio, visionner la vidéo, parce que c'est vraiment important de connaître la vie de l'apôtre Paul. On a passé la semaine passée au complet juste à répondre à la question suivante. Pourquoi étudier la vie de l'apôtre Paul? Pourquoi? Et je prendrai pas le temps de tout répéter, mais en gros, on a vu la main de Dieu dans sa vie comme jamais auparavant. On a vraiment vu la main de Dieu ressusciter cet homme. Vous êtes peut-être surpris, mais quand on était lapidé et puis on se relève et on va prêcher le lendemain, bien, à quelque part, il y a eu un miracle. On peut pas affirmer à 100% que c'était une résurrection, mais selon moi, c'était ça. Et je vais vous encourager à aller écouter l'enseignement de la semaine passée pour vous aider à vraiment connaître qui est l'apôtre Paul. Et comme on va voir ensemble ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 1, il est écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et l'apôtre Paul, ici, il disait à l'Église « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc, Paul était là en train de vouloir imiter le Seigneur Jésus et puis il était tellement confiant que vraiment il marchait dans les voies de Dieu qu'il était prêt à dire aux gens « Suivez-moi, faites comme moi, le faites comme moi ». Et peut-être aujourd'hui, vous dites « Ben moi, je suis pas rendu à ce point-là où je voudrais encourager les gens à faire exactement comme moi ». Mais heureusement, qu'est-ce qui est merveilleux, comme on prend du temps dans la parole de Dieu, comme on étudie la parole de Dieu, on peut se laisser transformer et le Seigneur nous change. Et on ne devrait jamais décourager et dire « Ah, coudonc, il me reste tellement de chemin à faire ». Non, parce que comme on prie, comme on cherche la face de Dieu, le Seigneur est là. Il est pas pressé, hein? Il est là pour nous façonner, nous travailler, changer les choses dans nos vies qui doivent être changées. Et là, par après, comme on progresse avec Dieu avec un cœur sincère, pas nécessairement parce qu'on est parfait dans notre condition humaine, mais parce qu'on est parfaitement en amour avec Dieu, là on peut dire aux gens « Suis-moi, moi je veux vraiment suivre le Seigneur Jésus, donc marche avec moi dans ce bon combat de la foi ». Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on va parler des choses qui concernent le leadership spirituel. Le leadership spirituel. Lorsqu'on étudie la vie de l'apôtre Paul, c'est impossible pour nous de passer à côté cette chose-là, comment l'apôtre Paul était véritablement un leader. Et aujourd'hui même, je suis en train de dire ça, on va parler des points, des leçons de leadership dans la vie de l'apôtre Paul. Peut-être vous vous dites, bien moi je suis pas un leader, donc ce message ne me concerne pas. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé de Dieu à être un leader. Vous allez tous guider quelqu'un vers le Seigneur. Amen. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, si vous dites, ben moi je suis pas encore un enfant de Dieu, bien gloire à Dieu, c'est possible pour vous d'être transféré d'un royaume à un autre aujourd'hui même. Même maintenant, vous faites juste dire, « Oui, Seigneur, je te donne ma vie maintenant, au nom de Jésus. Amen. » Et c'est fait. Vous allez voir qu'il n'y a pas de formule magique dans la parole de Dieu pour être sauvé. C'est une question de cœur. C'est vraiment une question de cœur lorsqu'on donne notre vie au Seigneur. Donc, même pendant que je prêche, peut-être vous allez ressentir le Saint-Esprit venir sur vous et vous dire, « C'est le temps pour toi de revenir » ou « C'est le temps pour toi de vraiment t'abandonner. » Et quand vous sentez la présence de Dieu vous dire ça, dites « Oui ». Et Dieu va l'entendre. Vous n'avez même pas besoin de le dire à voix haute, juste dans votre cœur. Oui, Seigneur, je me donne à toi. Et le moment que vous allez faire ça, vous allez ressentir une paix et vous allez ressentir la présence de Dieu vous envahir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on poursuit dans l'étude sur la vie de l'apôtre Paul et on va parler maintenant de cet homme, un grand homme de Dieu. Qui est Paul? Qui était Paul? Je vais vous inviter maintenant à aller dans Actes chapitre 22, verset 3. Actes chapitre 22 et verset 3, je vais vous inviter en même temps d'apporter vos Bibles à l'Église. On est une Église démodée, parce qu'on croit encore dans l'importance de marcher avec une Bible, amen, et de l'apporter à l'Église. C'est bon d'avoir votre Bible, c'est bon de l'avoir dans notre cœur, mais on ne les a pas sur le PowerPoint. Et puis je pense pas qu'on va le mettre sur le PowerPoint. J'aime ça. On est démodés. On a des bibles en papier. Amen. Actes chapitre 22, verset 3. Ici, l'apôtre Paul, il parlait de lui-même. Il dit, je suis juif, né de Tarse, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, en parlant de Jérusalem, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu. Et puis, on peut se poser la question, mais pourquoi encore une fois étudier l'apôtre Paul? On a vu la semaine passée pourquoi on a vu la puissance surnaturelle de Dieu en opération dans sa vie. Donc déjà, on a une bonne raison. La semaine passée, c'est ça qu'on a vu, le surnaturel dans la vie de l'apôtre Paul. Donc ça devrait être une motivation pour nous de dire, moi je veux découvrir cet homme-là parce que je veux marcher dans le surnaturel. Et au lieu de croire, on n'a pas notre héritage en Christ parce que regardez, là l'apôtre Paul a vécu des épreuves et souvent c'est ça qu'on a fait, on a dit l'apôtre Paul a vécu des épreuves, donc nous on ne peut pas vraiment croire Dieu pour le miraculeux parce qu'on a un modèle ici d'une personne qui a été prouvée. Mais si vous étiez là la semaine passée, vous avez vu que ça c'est un mensonge de l'ennemi et dorénavant, vous ne pourrez plus jamais vous faire voler. Amen. Parce que vous connaissez les miracles. Il y a eu les épreuves, mais il y a eu les miracles surnaturels dans sa vie. Et une des choses, hier soir, comme je priais en préparation pour ce message, ce verset est venu dans mon cœur, dans Matthieu, juste avant d'aller lire d'autres passages, mais dans Matthieu, chapitre 28, et le verset 19, vous connaissez bien, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu nous appelle non seulement à venir à l'Église pour être encouragé dans notre foi, être stimulé, avoir des moments où on va dire « Amen, Alléluia, gloire à Dieu, c'est bon, c'est merveilleux d'avoir des prédications parfois, mais en même temps, Dieu nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et des disciples, c'est pas juste des professions de foi, c'est pas juste des gens qui disent « Oui, je veux servir le Seigneur », mais c'est des gens aussi qui grandissent. Amen. Et combien d'entre vous voulez rester un bébé spirituel toute votre vie? Non, on veut pas. On veut grandir. Donc, on a besoin d'être enseigné dans les voies de Dieu. C'est dit, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ça qu'on veut faire pendant cette série, de vous vraiment des disciples. Vous allez découvrir des choses dans la vie de l'apôtre Paul qui vont vous aider vraiment à être un disciple de Jésus-Christ. Et enseignez-leur. Faut être enseigné dans les voies de Dieu. Et hier soir, comme je priais, c'est le verset qui revenait dans mon cœur, juste pour vous encourager tout au long de l'enseignement sur la vie de l'apôtre Paul. Rappelez-vous, on est en train de répondre ici au commandement du Seigneur, d'aller par toute la terre et d'enseigner, de faire des disciples. Concernant l'apôtre Paul maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans sa vie? Cet homme-là, c'est un citoyen de l'Empire romain, la puissance mondiale de l'époque. C'est important pour nous de connaître un petit peu d'où il vient. Donc, c'est un habitant de Tarse. C'est une ville universitaire d'environ 250 000 habitants. Donc, c'est une ville assez nombreuse et en même temps prestigieuse. C'est une cité-État, donc indépendante, mais qui était à Rome, mais qui était indépendante, qui n'avait donc pas besoin de payer des taxes. C'est une ville prospère et huppée. Donc, quand l'apôtre Paul disait « Moi, je viens de Tarse », c'est comme s'il pouvait dire qu'il venait d'une très belle ville. OK? Juste vous donner un peu le contexte. Donc, cet homme-là pouvait dire qu'il venait d'une belle place. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, ben moi, je viens d'une petite place et je suis pas important. » Mais ici, juste dans le contexte humain, l'apôtre Paul, il venait d'une ville huppée. Donc, des fois, quand on vient d'une belle place huppée, on peut être un peu snob. Avez-vous déjà rencontré des snobs? Oui. Ma mère a dit oui. Mais des fois, c'est ça. Et des fois, vous allez voir dans la vie de l'apôtre Paul, il y avait des raisons, des fois, de lutter contre la chair, contre l'orgueil. Mais ici, vous connaissez un petit peu des choses sur sa vie. Donc, habitant de Tarse, vous le savez maintenant que c'est une ville huppée. Dites huppée. Bon, vous le savez. C'est un juif, un pharisien. Donc, à l'âge de 5 ans, il aurait commencé ses études théologiques aux synagogues. À 5 ans. Imaginez. C'est quelque chose. Donc, c'est un homme qui a été instruit dès son enfance. Et à 13 ans, il aurait déménagé à Jérusalem pour étudier à l'école rabbinique Hillel. Donc, on voit ici, même vraiment en tant qu'enfant, à 13 ans, il étudiait là, à fond la parole de Dieu, en plus avec Gamaliel, qui était un érudit expert et très, très respecté. Donc, il est devenu un savant. Et en même temps, lorsqu'il étudiait avec Gamaliel, il était exposé à la culture grecque. Donc, souvent, Gamaliel prenait des exemples de la culture grecque pour faire le contraire contraste entre les choses dans la vérité et les choses dans le mensonge. Donc, il faisait toujours un contraste comme ça. Donc, l'apôtre Paul connaissait non seulement la parole de Dieu, mais il connaissait très bien sa culture aussi. C'est une chose importante. Il venait en même temps d'une famille très prospère. C'est une famille qui faisait des tentes. Donc, tous ceux qui font des tentes aujourd'hui, vous savez... vous êtes d'une famille prospère. Mais à l'époque, c'était vraiment comme ça. Et tout ça pour dire, ça, on connaît un petit peu son arrière-plan, mais il avait une destinée. Cet homme que Dieu avait choisi dès son enfance, il avait une destinée pour vivre des grandes choses. Entre autres, il était pour devenir apôtre. Apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et le mot apôtre, ça vient du grec apostolos, qui veut dire quelqu'un qui est envoyé. Quelqu'un qui vous dit, ben moi je suis apôtre. Moi cette semaine, je me suis fait envoyer un courriel. Quelqu'un me demandait la question, êtes-vous apôtre? J'ai répondu, je suis pasteur. Mais tout ça pour vous dire, un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. On reconnaît en lui la destinée. Je crois dans les cinq ministères, tout ça pour vous dire. Mais on reconnaît en lui une destinée pour certainement prêcher l'évangile de Jésus-Christ, mais aller fonder des églises en même temps. Donc l'apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Bon, pour l'apôtre Paul, il a été appelé à établir des églises et ensuite exercer son autorité sur les églises qu'il a fondées. Donc, il y a un réseau d'églises. Ça, c'était son appel. L'apôtre va évangéliser, enseigner, nommer des anciens, établir des pasteurs. Donc, ça, c'est l'appel de l'apôtre et certainement, Paul était un apôtre. Et dans 1 Corinthiens 3:10, ça nous donne juste ici un verset très important qui dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Donc voilà, ça c'est juste des choses élémentaires qu'on devrait connaître sur la vie de l'apôtre Paul concernant son arrière-plan spirituel et en même temps juste culturel là où il habitait. Une autre chose, vous savez certainement, si vous avez un peu lu le Nouveau Testament, si vous avez fait un peu d'études concernant la vie de l'apôtre Paul, vous savez que l'apôtre Paul était un grand persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. Vous le connaissez certainement, mais on va prendre du temps un peu maintenant à lire des choses concernant la persécution. Mais juste avant, dans Jean 16, verset 2, Jésus avait dit les choses suivantes. « Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Donc, Jésus avait averti ses disciples disant « Quand là, les gens vont vous persécuter, ils vont penser vraiment qu'ils sont en train de faire une faveur à Dieu. » Et la semaine passée, on a passé du temps vraiment en parlant de la persécution, les choses difficiles que l'apôtre Paul avait vécues. Et une des choses qu'on doit comprendre concernant la persécution, des fois, on peut être persécuté de toutes sortes de façons. Des fois, c'est physiquement, dans d'autres pays, c'est plus physique. Au Canada, ça serait plus au niveau de notre langage. Les gens peuvent parler contre nous, médire. Hein? Les gens peuvent inventer des histoires sur vous, peuvent inventer des histoires sur votre église locale. Et là, en tant que bon croyant, bon chrétien, bien, c'est à nous de se taire et ne rien dire. Des fois, on peut juste affirmer des choses qui sont vraies, par contre, hein, et encourager les gens à aller écouter des enseignements pour aller juger pour eux-mêmes. Hein? Amen. Il y a un bon site web qui s'appelle enseignement.com. Mais des fois, la persécution au Québec, au Canada, c'est plus comme ça. J'ai un frère qui me racontait, lui, il s'est fait persécuter d'une autre façon. Notre frère Stéphane, qui a gagné encore un championnat, là. Mais, c'est ça, il s'est fait détruire des tentes par des gens qui n'aimaient pas l'Évangile. Bon, c'est une des façons, des fois, que l'ennemi peut nous attaquer. Tout ça pour dire, on connaît la vie de l'apôtre Paul. Dans Actes, chapitre 7, il y avait Étienne qui se tenait pour la justice, un diacre dans l'église primitive. Il était là, il prêchait Jésus-Christ. Et puis là, il prêchait aux leaders d'Israël. Et les leaders d'Israël n'aimaient pas qu'est-ce qu'il disait parce que Étienne n'avait pas sa langue dans sa poche. Est-ce que je l'ai eu, cette expression-là? Gloire à Dieu. J'ai eu l'expression québécoise. Wouh! Mais là, Étienne se met à prêcher, il prêche, et puis là, les anciens d'Israël décident, on va le lapider, celui-là, on va le tuer parce qu'on n'aime pas son discours. Donc, ils l'ont lapidé. Et là, au verset 58, dans Actes, chapitre 7, verset 58, là, nous découvrons l'homme Paul, qu'on appelait Saul à l'époque. Donc, les Juifs le traînèrent hors de la ville en parlant ici d'Étienne et ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et vous avez dit, mais comment ça on l'appelait Saul? Ben, c'est à cause, c'était son nom juif, mais aussi son nom grec, c'était Paul. Une des choses importantes qu'on peut comprendre aussi concernant la vie de l'apôtre Paul, c'est un homme passionné pour Dieu, mais passionné dans l'erreur. Il attaquait le vrai peuple de Dieu. Et parfois, on rencontre des gens qui sont passionnés pour Dieu et puis ils vont vous attaquer pensant qu'ils font à Dieu une faveur. Moi, j'ai eu, il y a quelques semaines, deux personnes venir à ma porte un samedi matin. Et ils étaient là et m'attaquaient. Je peux vous dire, d'autres fois, j'ai prié. Je vais vous raconter l'avant-dernière fois. On était l'équipe pastorale en prière et j'ai eu deux personnes venir qui étaient là. Ils sont venus juste pour m'évangéliser, pour m'embarquer dans leur secte. Et puis là, toute l'équipe pastorale priait en esprit, priait pendant que moi j'étais là à la porte, et puis pendant une demi-heure, je pense, environ, j'étais là, et puis j'étais en train d'évangéliser, et je ressentais la paix de Dieu, la présence de Dieu, et c'était merveilleux. Et même, il y a une des femmes qui a été touchée, puis est venue les yeux pleins d'eau, gloire à Dieu. La dernière fois, j'ai chuté. J'ai embarqué dans leur argument. Puis vraiment, mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est venir voler ma joie, voler ma paix. Et puis la femme, au tout début, j'ai fait l'erreur de dire que j'étais pasteur. C'est que pour elle, c'est comme, j'ai mon combat, on va l'avoir là. Et puis, je suis en train de parler de Jésus, j'essaye, mais là, elle commence à me picosser. Vous connaissez ça? Et c'était pas agréable. Mais là, j'étais en train de me faire persécuter. Vraiment, c'était comme pas gentil. Et là, j'avais mes deux petites filles qui étaient là, qui m'écoutaient. Et là, je me suis emporté en plus. Mais j'ai vraiment failli et j'ai pensé à ça toute la journée. En plus, j'étais en vacances. Ma première journée en vacances. Là, je me suis dit, je peux pas prendre des vacances, moi, coudon. Mais là, écoutez bien. Là, j'ai parlé avec Pasteur Jean, lui qui avait rencontré d'autres personnes, puis il m'a dit comment il avait été rempli d'amour, puis il avait partagé, puis la personne avait été touchée. Je sais. Mais il y a toutes sortes de façons qu'on peut répondre à la persécution. Toutes sortes de façons. Notre prière, notre cœur, ça devrait toujours être rempli d'amour, être compatissant, juste être là pour leur donner l'espoir en Jésus, pas pour gagner des arguments. Mais j'ai été charnel, moi, cette fois-là. Je me suis laissé emporter par des arguments théologiques. Puis pourtant, je vous ai déjà dit pas faire ça, hein. J'ai dit, faites pas ça, ça donne à rien. Puis j'ai tombé dedans. Et là, ma femme, elle arrive. On aime Jésus, nous autres. Là, j'étais comme, et donc mature, elle. C'est vrai, on aime Jésus, puis on a fermé la porte. Que voulez-vous? Mais, tout ça pour vous dire, il y a des gens qui sont là, ils vous attaquent, sont passionnés pour Dieu, mais sont passionnés avec une mauvaise passion, un mauvais zèle. Et si l'apôtre Paul, il était passionné pour Dieu, et puis il voulait faire mourir les croyants en Jésus-Christ, les chrétiens. Une des choses, on voit le premier martyr, Étienne, est mort. Et là, on a vu au verset 58, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment important? C'est important de voir et de souligner ce fait-là, parce que quand les gens ont emporté leurs vêtements, ils venaient de tuer là quelqu'un, et puis ils ont emporté leurs vêtements ou juste avant, ça voulait dire que l'apôtre Paul était là en tant que qu'officier, il était là pour affirmer que c'était bien et juste de faire ça. Il était là en train d'autoriser l'affaire. Donc, s'il y avait l'autorité d'autoriser ce meurtre-là, le fait que Étienne était pour être lapidé, ça voulait dire qu'il faisait partie des 70 membres du Sanhédrin. Vous vous dites, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie de savoir ça? Ben, c'est important juste parce que l'apôtre Paul, s'il faisait partie du Sanhédrin, ça veut dire également qu'il devait répondre aux exigences du Sanhédrin, qui voulait dire qu'il avait une épouse et avait au moins un fils. Et quand on pense à l'apôtre Paul, on pense toujours, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, que l'apôtre Paul était célibataire. Mais on sait qu'il est devenu célibataire, mais probablement, à l'époque même, il y avait une épouse et au moins un fils. Donc, il y avait le don du célibat une fois qu'il a perdu sa femme. C'est ça qui s'est passé. Là, on ne connaît pas l'histoire. Est-ce que sa femme s'est fait tuer? On ne sait pas. Est-ce qu'elle est morte? On ne connaît rien. Mais les théologiens nous disent que probablement, l'épouse de l'apôtre Paul l'a abandonné lorsqu'il est devenu un serviteur de Jésus-Christ. Donc, c'est important. Et puis, elle serait partie avec son fils. Et on ne connaît pas le restant de l'histoire. Mais on sait que l'apôtre Paul il a fini sans son épouse. Donc, c'est une chose importante. Ça, c'est Dr. Bernard Rossier qui nous en parle. Donc, si on va maintenant au chapitre 8, verset 1, c'est dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne ». Et voyez comment le Saint-Esprit ici nous souligne, c'est un meurtre. « Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. » Imaginez, cet homme-là, il pensait qu'il faisait la volonté de Dieu. Et pourtant, il allait vraiment à l'encontre de l'appel de Dieu, de ce que Dieu voulait. Et peut-être avez-vous déjà été comme ça? Certainement pas au niveau de pouvoir tuer quelqu'un, mais juste au niveau d'être contre quelqu'un, parler en mal, attaquer, persécuter, et puis découvrir quelque temps après que cette personne-là était de Dieu. Mais si c'est votre cas, Dieu, il vous pardonne aujourd'hui si vous êtes repentant. Amen. Actes chapitre 9 maintenant, versets 1 à 2. C'est dit, cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. C'est un homme zélé pour Dieu, Mais en même temps, il est tellement zélé, il va même voir le souverain sacrificateur pour lui demander des lettres. Je veux les arrêter, ces gens-là. Et des fois, vous allez rencontrer des gens comme ça dans votre entourage. Faut les arrêter. Vous savez, il y a un ministère qui m'a beaucoup touché dans ma vie. Et les gens de l'association d'église qui étaient contre ce prédicateur-là, ils ont tout fait pour empêcher le prédicateur de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont allés voir les stations de télévision pour leur dire « Empêchez-le de prêcher, empêchez-le, ne lui vendez pas du temps d'antenne. » Et c'était des chrétiens qui faisaient ça. Réalisez-vous ça aujourd'hui. Des fois, les pires, les gens qui attaquent le plus, qui sont des embûches pour l'évangile de Jésus-Christ, c'est des gens qui sont religieux, qui ont un esprit de religion comme l'apôtre Paul avait. Ici, l'apôtre Paul était rempli de cette haine. Il détestait le peuple de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Peu importe votre arrière-plan, peu importe les choses mauvaises, peu importe la culpabilité de l'apôtre Paul à ce niveau-là qui autorisait, qui était pour le meurtre d'Étienne, peu importe, le sang de Jésus est capable de purifier même ces péchés-là. Amen. Le sang de Jésus purifie quand même. Et même s'il était terrible et méchant, cruel, il arrachait les hommes, les femmes, et puis on les mettait en prison, Dieu avait sa main sur cet homme. Dieu avait un appel pour sa vie. La première leçon spirituelle qu'on veut voir aujourd'hui, la leçon de leadership, c'est qu'il n'y a aucune personne qui est repentante qui est disqualifiée. Il n'y a personne, peu importe ce que vous avez fait dans votre passé. Si on regarde la vie de l'apôtre Paul et puis on voit tout ce qu'il a fait, si on prend le temps vraiment de méditer sur les choses méchantes, on peut voir que même cet homme-là, Dieu a décidé, je vais m'en servir. Je vais prendre cet homme-là et à cause de mon Saint-Esprit qui va venir sur lui, je vais lui accorder l'onction et puis il va faire l'œuvre du ministère. Et puis en plus, je vais me servir de cet homme-là et puis il va écrire la moitié du Nouveau Testament. Imaginez. Donc si vous êtes ici aujourd'hui et vous avez déjà cru que peut-être le Seigneur se servirait de vous, mais là l'ennemi vient vous dire, mais non, toi t'as trop fait. Il y a des choses trop terribles dans ton arrière-plan. Si les gens savaient ce que tu as fait. Aujourd'hui, Dieu vous dit, regardez à l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, meurtrier. Mais voilà Dieu le pardonner et justifier. C'est une leçon importante parce qu'il y en a plusieurs qui sont là. J'ai rencontré un homme. Il y avait un appel de Dieu sur sa vie. Mais il a chuté dans le péché. Et puis on a essayé de lui dire, Dieu te pardonne. Il dit, oui, mais moi, je ne me pardonne pas. Et puis des années de temps, il a vécu sous la culpabilité du péché parce que l'ennemi venait le condamner. Aujourd'hui, là, si vous êtes comme ça, si vous faites condamner par l'ennemi, vous devez savoir que ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu n'est pas là pour vous écraser. Il est là pour vous relever, vous pardonner. Amen. Paul a été merveilleusement sauvé. Dans Actes chapitre 9, verset 3, je vais vous inviter maintenant à aller dans ce texte, Actes chapitre 9 et le verset 3 à 7. Comme il était en chemin qui s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Remarquez ici, le Seigneur Jésus qui parle à l'apôtre Paul « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Quand on persécute l'enfant de Dieu, on persécute Jésus lui-même. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Écoutez bien la prochaine phrase, « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Qui veut dire, « Tu te fais mal en me faisant mal. » Tu te fais mal, c'est comme si tu te donnes des coups de pied là, contre des aiguilles. À chaque fois que tu fais ça, tu te fais mal, Paul. Remarquez maintenant, verset 6, tremblant et saisi d'effroi. L'apôtre Paul a vraiment vécu une touche ici, tremblant et saisi d'effroi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà la prière de repentance de l'apôtre Paul. C'est à ce moment-là que l'apôtre Paul a été sauvé. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est aussi simple que ça. Une autre leçon qu'on peut découvrir, une deuxième leçon ici, c'est que Dieu ne prend pas des formules magiques pour sauver les gens. Des fois, on entend les gens dire, ah ben j'ai fait faire la prière de repentance. La personne n'a rien compris, mais elle a fait une prière. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on comprenne que Jésus est le Seigneur. Et qu'on se donne, ici, la prière, c'était, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'était aussi simple que ça. Il s'est abandonné à ce moment-là au Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi. Lève-toi. Et c'était certainement, lève-toi de la terre, mais en même temps, lève-toi de ton passé. Relève-toi, Paul. Verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Et là, ici, on sait que sa vision a été suspendue pendant 3 jours. Il ne mangea ni but pendant ces 3 jours-là. Ensuite, on va dans Actes, chapitre 9 et le verset 10. En passant, je vous lis beaucoup de versets, je réalise, mais vous savez, la Bible, c'est une bonne chose. C'est bien pour nous de lire la parole de Dieu. Paul ici reçoit un appel au ministère peu populaire. Souvent, quand on évangélise, quand on parle du Seigneur Jésus aux gens, on leur dit, bien, viens au Seigneur Jésus parce qu'il est rempli d'amour, il est bon, il veut vous restaurer, vous délivrer, vous guérir. Et c'est tout vrai. C'est vrai. Mais parfois, si on dit juste ça, on passe à côté d'une réalité en même temps, qu'on doit mourir à soi-même. Et parfois, il y a toutes sortes de choses qui arrivent aussi. Et ici, on comprend, on voit l'appel que l'apôtre Paul a reçu dans Actes chapitre 9 et le verset 10. On connaît l'histoire, l'apôtre Paul est là, il voit rien pendant 3 jours, il est en prière. Et là, au verset 10, dans chapitre 9, Actes 9, « Or, il y avait à Damas un type nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Dieu avait tellement un appel sur la vie de l'apôtre Paul qu'il a fait en sorte que cet homme, Ananias, a eu une vision. Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposa les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Voyez-vous, des fois, les circonstances autour pourraient nous décourager d'aller vers quelqu'un et leur prêcher l'Évangile. « Seigneur, il y a ci, Seigneur, il y a ça. Certainement, Seigneur, si je m'en vais voir cet homme-là, il a le pouvoir de m'arrêter, m'emprisonner, et ça ne me tente pas, Seigneur. » Et pouvez-vous vous imaginer que ça serait légitime de dire ça? C'est légitime d'avoir les émotions, certainement, comme ça. Mais Dieu dit, « Va. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai, écoutez bien, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Si, le moment que vous avez reçu le Seigneur Jésus est là, si vous croyez que vous êtes appelé au ministère de prédicateur, peu importe, un des 5 ministères, et le Seigneur vous faisait réaliser les choses que vous deviez souffrir pour le nom de Christ, on parle pas ici de la malédiction. Les gens se mélangent. Ils pensent que Dieu nous envoie la malédiction pour nous. Non, non, non. On parle pas de la malédiction. Mais quand on se tient pour Jésus-Christ, l'ennemi oppose. Saviez-vous ça? L'ennemi oppose l'enfant de Dieu. Si vous, c'est toujours beau et bien, et vous ne ressentez pas d'opposition dans le monde spirituel, des fois, vous pouvez même pas comprendre, mais si c'est toujours comme la nuée sur le Père, avec le Père, c'est merveilleux, mais à quelque part, vous ne dérangez pas beaucoup l'ennemi. Mais quand vous êtes là, et vous avancez, et vous travaillez pour que les gens entendent parler de Jésus-Christ, vous êtes engagé dans un ministère quelconque, si vous êtes vraiment, vraiment engagé pour Jésus-Christ, vous allez souffrir pour Jésus. Amen! C'est vrai ça! Mais ici, on ne parle pas de la malédiction, là. C'est là où on se mélange. Mais écoutez, mais là, vous dites, mais ça me tente pas de souffrir. Mais on n'aime pas ça, personne. Mais si on sert Jésus-Christ, il y a des moments, vous allez vous réveiller, l'ennemi va vous Vous semez des mensonges pour vous décourager. Des fois, vous allez être là, vous sentez une lourdeur, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est des esprits méchants qui viennent vous écraser pour vous décourager. Il y a toutes sortes de choses, des fois, vous allez entendre parler que quelqu'un parle contre vous, et là, ça va venir vous peiner. C'est une forme de souffrance. Ou des fois, il va y avoir des choses, des frustrations dans le ministère, des choses difficiles. Vous allez dire, « Mais pasteur Joël, toi, tu ne dois pas rien vivre de ça, toi. » Je marche les deux pieds sur terre. Il y a des défis dans la vie chrétienne. Il y a des choses difficiles. On ne sert pas le Seigneur parce que Dieu a dit, « Voici toutes les bénédictions qui t'attendent. » On le sait que Dieu nous bénit, on le sait, mais on le sait en même temps que l'ennemi, lui, il va travailler contre nous. Donc, si vous êtes engagé ou si vous croyez que Dieu vous appelle au ministère, bien, une des choses, vous devez comprendre aujourd'hui que le diable n'est pas fin, il est contre vous, il va essayer de vous décourager d'avancer. Amen. L'ennemi est contre vous. Si vous ne le savez pas, apprenez ça. Satan m'aime pas. Le diable ne vous aime pas, il va essayer de toutes ses forces à vous décourager. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, et vous êtes un enfant de Dieu si vous êtes ici, et si vous avez fait de Jésus-Christ Seigneur de votre vie, là, vous voulez marcher avec le Seigneur, vous dites, ben j'ai toutes les raisons au monde d'être heureux, d'avancer dans la joie. Pourquoi je me sens comme ça? C'est le diable. Et là, c'est à ce moment-là que vous dites, au nom de Jésus-Christ, j'avance. Alléluia! Mais là, vous sentez découragé. Puis là, il y a quelqu'un qui vient vous semer des paroles de découragement. En plus, il vient de confirmer des choses que vous êtes en train de méditer. C'est-tu plate, ça? C'est pas le fun. Là, on dit, est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut prier pour cette situation-là? Parce, remarquez, quand on prie et on relâche notre foi pour l'intervention divine dans une situation, le Saint-Esprit arrive sur la place et puis il amène sa paix et sa joie. Amen. Donc, on ne dit pas qu'il n'y a pas des défis, qu'il n'y a pas de problèmes dans ce monde. Il y a des problèmes, l'ennemi vient, mais quand on se positionne dans la foi, on demeure dans la foi, puis on dit, Seigneur, tu m'as appelé dans le ministère, tu m'as appelé, tu savais que ce jour-là, que j'aurais telle épreuve, tu savais que l'ennemi était pour faire ça, mais pourtant, tu m'as appelé quand même. Amen. Tu savais, Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est jamais là, puis dit, oh, Colin Debine. Colin Debine, je ne savais pas qu'il était pour vivre ça. Bon, ben son appel vient d'évaporer, on oublie tout ça. Non, il savait, il connaît les épreuves, il connaît les gens qui vont être dans vos vies, des frères et des sœurs, papiers sablés, il les connaît tous. Il les connaît. Dieu n'est pas surpris. Donc, priez et cherchez la face de Dieu et dites-vous, j'avance avec Dieu, il n'y a personne au monde qui m'empêche d'avancer. Bon, là, ça dit, verset, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, même si l'apôtre Paul savait qu'il était pour vivre des choses difficiles, de l'opposition spirituelle à cause des religieux, l'apôtre Paul a accepté l'appel, comme vous allez voir. Donc, la leçon en leadership. Troisième leçon, il y a un prix à payer pour exercer un ministère reconnu de Dieu. Mais si vous voulez un ministère reconnu des hommes, prêchez uniquement ce que les hommes veulent entendre. Amen. C'est ça. Si vous voulez un ministère juste approuvé de tout le monde et vous faire flatter dans le dos, dire « Ah, oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon », bien là, prêchez juste ces choses-là, que les choses que les gens veulent entendre. Et au Québec, ça donne que ici, quand on prêche sur la bénédiction, c'est ça que les gens ne veulent pas entendre. Aux États-Unis, si on prêche la bénédiction, les gens sont contents, sont bénis et sont heureux. Mais ici au Québec, lorsqu'on prêche que Dieu est un bon Dieu, c'est le message que les gens détestent. Les gens veulent souffrir la malédiction. Ici, c'est bizarre. J'ai déjà rencontré une femme malade, pauvre, prise avec plein de problèmes, sous la malédiction, l'ennemi la terrassait. Mais elle dit, je peux pas aller dans cette église-là parce qu'ils vont me dire que Dieu va prendre soin de mes besoins financiers et que Dieu peut me guérir. Surtout pas, viens pas à notre église. Non, 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 non. Reste malade, reste pauvre. T'as peur que Dieu intervienne dans ta vie. Excusez. Non, mais c'est vrai. Donc, des fois, Dieu nous appelle à se tenir pour la vérité et dire, notre Dieu est bon. Et là, ça fait une révolution, mais ça dérange pas, on se tient pour la vérité. Amen. Rejet des Juifs. Vous allez dire, mais pourquoi on parle de ça? L'apôtre Paul, une des choses difficiles qu'il a vécues, c'était le rejet des Juifs, de son peuple. Imaginez passer toute sa vie à étudier avec Gamaliel, être respecté, être de Tarse, être d'une belle ville, être prospère, la réputation, être même membre du Sanhédrin. Voilà, toute cette belle réputation-là. Et tout d'un coup, il rencontre Jésus et puis se donne au Seigneur Jésus. Et là, tout d'un coup, il vit le rejet. Combien d'entre vous, vous avez déjà vécu le rejet? Bien, si vous avez vécu le rejet, ça ne fait pas du bien, n'est-ce pas? Dans Actes 9, verset 23, Paul descendit par la muraille dans une corbeille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les Juifs voulaient le tuer et puis ils étaient obligés de s'enfuir. Ils ne partaient pas en limousine, là, ils partaient en corbeille pour s'en aller. Mais non seulement il était rejeté des Juifs de son propre peuple, l'apôtre Paul a été rejeté par les chrétiens, en plus. Donc on le rejette, les Juifs ne veulent plus rien savoir de lui. Mais là, en plus, les chrétiens le rejettent. Dans Actes 9, verset 26, il est écrit, « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, sa première visite, là, Saul tâcha de se joindre à eux en parlant des croyants, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. » Imaginez, rejeté sur les deux fronts. Les Juifs ne veulent plus rien savoir de lui. Et là, en plus, les chrétiens disent, « Mais là, c'est un piège, c'est un faux. Lui, il vient juste ici là pour rentrer parmi nous, créer la division, nous avoir, nous séduire, et puis là, nous faire arrêter. » L'apôtre Paul a vécu des souffrances. C'était pas toujours facile servir Dieu. Mais heureusement, Dieu avait sa main dans sa vie. Amen. Paul a vécu quelque chose d'absolument fantastique. On va aller maintenant dans Actes 9, versets 17 à 18. Je vous ai lu jusqu'à présent que Dieu avait dit à Ananias, « Va-t'en voir l'apôtre Paul ou Saul. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Remarquez, on a déjà vu que Paul, lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, il était sauvé, là. Mais après, ici, Ananias dit « Que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, verset 18, « Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. » Une autre chose essentielle pour nous, si nous voulons marcher dans le ministère que le Seigneur nous appelle à vivre, c'est que la plénitude du Saint-Esprit est essentielle pour un ministère de puissance. Si vous étudiez la vie de l'apôtre Paul, on peut voir que c'est un homme, non seulement qui avait donné sa vie à Jésus, mais en même temps qu'il avait reçu du Seigneur la plénitude. C'est-à-dire qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Si vous dites, bien moi je veux le ministère comme l'apôtre Paul sans vivre la puissance du Saint-Esprit, sans vivre l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit, bien vous passez à côté, c'est impossible. Amen. Amen. Là, on le sait, l'apôtre Paul a été sauvé, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été guéri en même temps. Et là, dans Actes 9, verset 20, son ministère commence immédiatement. Immédiatement. Sauvé, rempli du Saint-Esprit, il prêche. Vous allez voir. Vous allez voir ici une chose vraiment intéressante. Actes 9, verset 20 à 22 maintenant. Et aussitôt, dites aussitôt. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il y en a des gens qui disent, ah bien, l'apôtre Paul a été 3 ans dans le désert avant de prêcher. Et on va le voir ça, parce que oui, c'est vrai, il est allé 3 ans. Mais le moment qu'il était sauvé, tout de suite, il s'est mis à évangéliser. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est un message assez simple à prêcher. Jésus est le Fils de Dieu. Et surtout, vu que l'apôtre Paul avait toutes sortes de bagages, il connaissait les prophéties sur le Messie, là, il s'est mis tout de suite à prêcher. C'est lui, Jésus est le Fils de Dieu. L'apôtre Paul n'a pas commencé avec des discours sur, bien, voici 10 clés pour vivre une telle chose. Non, il arrivait avec un message, il parlait de Jésus. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, en passant, là, étaient dans l'étonnement et disaient, ça c'est probablement pendant qu'il prêchait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. C'est un ministère de puissance au tout début. Il se met à prêcher immédiatement. Qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Là, vous allez voir, on va voir ensemble quand même, il a passé 3 ans Mais une des choses, je voulais juste ouvrir une autre parenthèse. Ah, ben, une leçon de leadership, c'est le message n'a pas changé en passant. Quand on prêche l'évangile de Jésus-Christ, on prêche Jésus. Il y a des gens, des fois, qui disent, bien, moi, je prêche l'évangile, mais on parle de Jésus beaucoup plus tard dans notre discours, et puis on va parler de toutes sortes de choses pour s'identifier aux gens, et puis on s'identifie tellement qu'il y a des églises remplies d'inconvertis qui sont là, et puis ne sont pas sauvés, nés de nouveau. Bien, on ne veut pas parler de péché parce que les gens vont peut-être être offusqués. Bien, étudiez la vie de Paul, étudiez la vie du Seigneur Jésus. Regardez, lisez la Bible, on en parlait de ça. On parlait du péché de l'enfer. Est-ce qu'on veut un ministère semblable au ministère de l'apôtre Paul ou on veut s'inventer notre propre philosophie ministérielle? Sa passion pour les âmes surpassait son amour de soi. C'est une des choses que, cette semaine, comme je priais sur la vie de l'apôtre Paul, je demandais au Seigneur de me montrer des choses. Et c'est ça qui venait toujours dans mon cœur. C'est que cet homme-là, là, c'est un homme vraiment là, rempli d'amour pour les autres. Pas sur lui-même. Il n'était pas centré sur lui-même. Remarquez bien, dans Romains 9, 3, ça dit, « Je voudrais moi-même être anathème. » L'apôtre Paul dit, « Je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Ça veut dire qu'il aimait tellement son peuple, les Juifs, il dit, si je peux juste être maudit moi-même, là, pour qu'ils soient tous sauvés, je le ferais. Paul, là, il aimait les gens. L'apôtre Paul était comme ça. Et vous, aujourd'hui, êtes-vous à ce point-là où vous dites, je suis tellement en amour avec Dieu que j'ai cette passion qui est en fait cet amour de Dieu, de Christ? Parce que dans Galates 3:13, on sait que c'est Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la loi et qui avait été lui-même maudit. Maudit quiconque est pendu au bois. Donc, on voit ici quand il disait, là, quand l'apôtre Paul disait, suivez-moi comme je suis Christ, on voit vraiment qu'il suivait au max, même dans cette compassion et cet amour pour les gens. Amen. Une des choses importantes, on a vu immédiatement le moment qu'il a été sauvé et rempli de l'Esprit. Là, l'apôtre Paul il a prêché Jésus, que Jésus était le Fils de Dieu. Ensuite, l'apôtre Paul s'est laissé former pendant 3 ans. On a vu, c'était écrit aussitôt, il s'est mis à prêcher, mais après, immédiatement après, on voit dans Galates chapitre 1, verset 10 à 19, ça nous dit qu'il a passé 3 ans en Arabie. L'apôtre Paul a accepté d'aller à l'IBMV en Arabie. C'est bon, hein? Mais il s'est retiré pour aller passer 3 ans en Arabie. Et on dit, mais où dans la chronologie? Pour ceux qui sont intéressés, ça serait probablement dans Actes 9, 23, qui dit, un certain temps, il a été, en tout cas ce texte-là, un certain temps, ça nous parle, à ce moment-là, c'est là où les théologiens croient qu'il serait parti 3 ans en Arabie. Et là, des leçons de leadership à ce niveau-là. Le vrai ministère, c'est attendre et résister la tentation d'agir par soi-même. Imaginez, l'apôtre Paul, super qualifié, connaît le grec, en plus il parlait le grec, l'hébreu certainement, et puis il savait même traduire l'araméen, okay, il était vraiment connaissant, il connaissait plein de choses l'apôtre Paul, il aurait pu dire, écoutez, j'ai étudié, je connais plein de choses, maintenant je sais c'est Jésus là, la solution, la réponse, donc voilà, je me mets à prêcher, il n'y a personne qui va me ralentir dans mon élan, je veux avancer. Et regardez bien, ici l'apôtre Paul il dit, 3 ans là, il était prêt à aller et se laisser former. Vous allez voir la bénédiction de la formation. Le vrai ministère, je vous répète, c'est notre 7e leçon. Le vrai ministère, c'est attendre et résister la tentation d'agir par soi-même. Amen. Si on est prêt à attendre d'être relâché, bien là, on va être béni. Mais quand on dit, ben moi, je veux faire mon affaire, là, ça brûle en dedans. Écoutez, s'il y en a un, là, je sais, ça brûlait en dedans, c'est l'apôtre Paul. Mais pourtant, il a permis, il s'est laissé former pendant 3 ans. 8e leçon de leadership. L'attente, selon Dieu, pas selon les hommes, mais selon Dieu, produit des fruits. Il va y avoir des révélations par la suite. Et là, on va voir, écoutez bien ceci. L'apôtre Paul, là, on va voir le fruit de son ministère. Dans Galates chapitre 1, verset 11 à 12, l'apôtre Paul, il dit des choses absolument merveilleuses qu'il n'aurait pas reçues s'il n'avait pas accepté l'appel d'être formé. Dans Galates chapitre 1, verset 11 à 12, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi... » Ici, on parle 3 ans après, là. Il y a eu 3 ans de formation, l'apôtre Paul. Mais il dit, « L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. » Donc, non, il n'était pas à l'IBMV. mais par une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, 3 ans dans le désert, c'était désertique comme lieu, mais c'était fertile spirituellement. L'apôtre Paul a reçu des révélations directement de Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens 9:1, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur quand il défendait son apostolat? L'apôtre Paul a littéralement vu Jésus qui est venu lui enseigner des choses. 1 Corinthiens 11:23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur. Donc, il a pris un temps, là, 3 ans avec Jésus qui était là pour lui enseigner et lui confier la révélation de la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, si nous avons notre Nouveau Testament, si nous avons les clés de victoire que nous avons aujourd'hui, c'est parce que l'apôtre Paul a pris 3 ans de sa vie, il s'est laissé former pour recevoir directement de Jésus sa formation d'école biblique. Amen. Ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Et j'ai encore plein d'autres choses à vous partager, mais je vais arrêter là d'ici deux minutes. Et 15, d'un coup si je dépasse. Je veux juste terminer avec ceci, parce que je n'ai pas le temps de continuer. Mais je veux partager une dernière chose, la révélation que l'apôtre Paul a reçue. Quand il était là-bas, il était pas à Damas, mais j'aime la mémoire, là, en Arabie. Quand l'apôtre Paul était en Arabie et puis il recevait du Seigneur Jésus, il a reçu certainement la nouvelle alliance, mais il a reçu le message de la croix. Et remarquez, l'apôtre Paul, il dit, c'est pas aucun homme, je l'ai pas appris d'aucun homme, mais je l'ai reçu directement du Seigneur Jésus. Je vais vous inviter à prendre en note ces versets. Et si vous ne connaissez pas encore comment vivre dans la vie chrétienne d'une façon victorieuse, je vais vous inviter à écouter l'enseignement « L'infirmerie du Saint-Esprit ». Et si vous dites « ben je l'ai écouté, mais on dirait je vis encore pris avec des péchés, on dirait je suis lié, j'ai des difficultés », réécoutez « L'infirmerie du Saint-Esprit ». Réécoutez « L'infirmerie du Saint-Esprit » jusqu'à ce que le Seigneur vous donne une révélation personnelle pour votre vie. Parce qu'on a besoin de saisir cette vérité. Et voici en terminant, je finis avec ça, là, une leçon en leadership concernant, c'est que le message n'a pas changé et c'est la révélation de la croix. Dans 1 Corinthiens 1:18, l'apôtre Paul a reçu ceci. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens pensent que c'est fou ça. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le message de la croix, en fait, est la puissance de Dieu, non seulement pour être sauvé, pardonner nos péchés, mais elle est la puissance de Dieu pour vous si vous voulez marcher dans la victoire au niveau de la sanctification, qui veut dire être mis à part pour Dieu. Écoutez bien ceci, je termine avec ceci, mais c'est la chose la plus importante. On a vu la vie de l'apôtre Paul, en gros, on a vu son ministère, les débuts de son ministère, mais là, la révélation qu'il a reçue lorsqu'il a accepté de se laisser former, il a reçu du Seigneur la révélation de la croix. Et la majorité des gens dans l'Église chrétienne aujourd'hui ne comprennent pas la révélation de la croix. Et on va dire, oui, mais comment ça? On comprend la croix au niveau du pardon des péchés et ça s'arrête là. On a compris, le Seigneur nous pardonne. Si on demande pardon au Seigneur pour notre dette de péché, on dit « Seigneur, pardonne-moi ». Oui, on comprend que la croix est là et que le Seigneur a versé son sang pour nous purifier. Mais ceci dit, on a passé à côté comment vivre victorieusement à chaque jour de notre vie par la puissance de la croix. On vient de voir ensemble, ça dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Une puissance de Dieu. Écoutez bien ceci, si vous placez votre foi dans l'œuvre de la croix et vous dites, il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a non seulement payé pour ma dette de péché pour que je sois pardonné, mais en même temps, il a payé pour que je marche dans la victoire sur le péché et que je domine sur le péché et que je marche dans la victoire, c'est alors que vous recevrez l'intervention du Saint-Esprit qui vous donnera la capacité de marcher dans la victoire. C'est seulement à ce moment-là, si vous dites, oui, j'ai été pardonné de mes péchés, mais si je prie, je vais avoir la victoire sur le péché. Si je lis ma Bible, je vais avoir la victoire sur le péché. Si je vais à l'église, je vais avoir la victoire. Toutes ces bonnes choses que Dieu nous appelle à faire sont rendues des mauvaises choses lorsque nous plaçons notre foi dans la performance de ces choses-là. C'est ça que l'apôtre Paul a reçu comme révélation. Il a réalisé que la loi était passée, qu'on était dans une dimension de la grâce. Il a compris Non, oui, je peux lire ma Bible, je peux faire toutes ces bonnes choses-là, mais c'est pas parce que je fais ces choses-là que je peux m'acheter ma victoire. Ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, je place ma foi là et Jésus a tout accompli pour moi il y a 2000 ans. Là, je place ma foi là et c'est alors que le Saint-Esprit peut autoriser et dire « Oui, c'est ça, Jésus a bien fait l'affaire. » Là, le Saint-Esprit vient et me donne la capacité de marcher dans la sainteté et ça ne vient pas de ma chair, ça vient surnaturellement. Et là, le combat n'est plus un combat du péché. Je combats pas le péché, je marche dans le combat de la foi. Un seul combat, c'est le combat de la foi, mais combat de foi dans quoi? Mon combat, c'est l'ennemi essaie toujours de me faire enlever mes yeux sur la croix pour mettre ça sur d'autres choses. Mais je suis gagnant dans le combat de la foi si je reviens toujours et dis, non, il y a 2000 ans, Jésus a payé pour que je sois dans la victoire aujourd'hui. Je ne lutterai pas contre le péché, je lutte dans la foi et je garde ma foi là. Je ne déplacerai pas ma foi là. Et si vous êtes là puis vous dites, mais c'est du chinois, demandez à Dieu de vous partager ces choses-là. Mais en terminant, je vous lis ces versets-là. Dans 1 Corinthiens 2:2, l'apôtre Paul a dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est ça que l'apôtre Paul dit. « Je veux rien savoir d'autre au monde que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Galates 6, 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pourtant, pour eux à l'époque, c'était quelque chose de honteux. » Mais ici, l'apôtre Paul avait reçu de Dieu, de Jésus lui-même, que c'était notre connexion à la puissance du Saint-Esprit dans notre expérience chrétienne. Colossiens 2, 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités. » On parle des démons de l'enfer. Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tout est là, à la croix. Et c'est ça que l'apôtre Paul a reçu. S'il y a une chose que vous retenez de cette série sur l'apôtre Paul, oui, cet homme-là avait été un persécuteur de l'Église, il avait été rejeté des Juifs, il a été rejeté des frères chrétiens, mais même malgré ça, il a même reçu un mandat pour le ministère, et il a reçu au début, tu vas souffrir pour moi. Pourtant, il a dit, je vais marcher avec Jésus quand même. Je vais marcher, je vais avancer, sachant que ça ne sera pas toujours facile. Et c'est alors que Dieu l'a mis à part. Et pendant 3 ans, il a reçu de Jésus-Christ lui-même des révélations. Et aujourd'hui, si nous avons le Nouveau Testament, en grande partie, c'est à cause, l'apôtre Paul a accepté. Il a accepté l'appel de Dieu. Et vous savez, vous pouvez avoir un appel sur votre vie, mais si vous refusez l'appel, c'est comme le salut, on peut dire non au Seigneur. Mais Dieu aujourd'hui, il est là par son Saint-Esprit et puis il vous appelle. Peut-être vous êtes là depuis des années et vous avez à cœur de servir le Seigneur, mais vous avez pris des raccourcis. Vous avez dit, ben moi je vais faire ça à ma façon, ça va pas assez vite. Dieu aujourd'hui, il vous dit, soyez à l'écoute de ma voix. Le Saint-Esprit est là et puis il veut vous conduire. Peut-être il va vous dire, va-t'en 2 ans à l'IBEM. Fais 2 ans de formation, si Saint-Esprit vous dit ça. Oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en fout, qu'est-ce que les gens vont penser? Oui, mais j'ai pas assez d'argent. On s'en fout, Dieu est votre source, n'est-ce pas? Mettez toutes ces choses-là, les raisonnements de côté, et faites ce que Dieu vous dit de faire. Mais ça sera pas facile. C'est sûr, ça sera pas nécessairement facile. Mais je suis certain que l'apôtre Paul ne regrettait pas du tout les révélations qu'il a reçues de Dieu, et la puissance de Dieu qu'il a vécu. Amen. Ah, c'est quelque chose de riche, découvrir les principes spirituels, les principes de leadership de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, en terminant, j'invite l'équipe de la louange, je vous fais vous approcher maintenant, s'il vous plaît. Je vais terminer avec une prière. Et en même temps, je vais vous inviter à pencher vos têtes. Si vous n'avez jamais vraiment fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, Seigneur, ça veut dire le maître. Peut-être vous avez été votre propre maître. Peut-être vous avez dit, moi, je vais faire ma vie à ma façon. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous appelle et puis il dit, c'est le temps d'abandonner. C'est le temps de vous laisser entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, je vous ai pas prêché un évangile facile. Je vous ai prêché la vérité de la parole de Dieu. Si vous n'avez jamais dit oui au Seigneur, ou peut-être si vous l'avez déjà fait, mais vous êtes éloigné de Dieu, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, c'est le jour du salut. Pendant que toutes les têtes sont penchées maintenant, pendant que les yeux sont fermés, par respect pour les gens, j'aimerais se demander, est-ce qu'il y a une personne ici qui dirait, je veux donner ma vie à Jésus-Christ? Je crois qu'il est mort sur la croix pour moi. Je crois qu'il s'est donné pour moi pour que je sois pardonné de mes péchés. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ Seigneur de votre vie, faites-moi signe simplement en levant la main. Et si vous l'avez déjà fait, mais vous dites, je veux me réengager, je veux m'engager aujourd'hui, je veux marcher avec le Seigneur d'une façon vraiment authentique, je veux m'abandonner à Dieu. Vous pouvez le faire maintenant aussi en levant la main. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Gloire à Dieu. Merci. Amen. C'est bon. On va prier ensemble. Et j'aimerais ça que tout le monde maintenant vous priez pour accompagner cette prise de décision. Amen. Est-ce que vous êtes tous là? On va prier. Père éternel, nous croyons aujourd'hui dans l'Évangile de Jésus-Christ. On te demande le pardon de nos péchés aujourd'hui même. Seigneur Dieu, purifie-moi, lave-moi, je te donne ma vie, fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais ça vous inviter sur l'Internet, nous contacter info@evqmedia.com, info@evqmedia.com, et ça va nous faire un grand plaisir de vous aider dans votre marche avec le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant? Merci Seigneur Dieu, gloire à toi. Merci Seigneur Jésus, tu es bon. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu t'es révélé à nous. Tu t'es révélé à nous. Et aujourd'hui, même si on connaît pas tous les mystères, on connaît celui qui les connaît. Merci, Seigneur, parce qu'on peut trouver notre refuge en toi, notre repos en toi. Et on te loue et on te dit comment on t'aime, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je prie pour chaque frère, chaque sœur dans cette église, pour ceux qui sont en vacances aussi, on les bénit en ton nom. Pour ceux qui s'en vont en vacances, on les bénit également. Merci, Seigneur, pour la provision du psaume 91, la protection surnaturelle est à nous et notre portion, la santé divine du psaume 103. Merci Seigneur, c'est à nous. Nous recevons aujourd'hui, nous croyons et Seigneur, nous décrétons sur chaque tête aujourd'hui le shalom, ton shalom, rien de manquant, rien de brisé au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il